Voilà, bonjour. Alors, parfois on me dit que je suis un peu provocateur dans ma façon de présenter la parole. Et je pense que bien souvent les gens ne le disent pas, parce qu'ils sont polis, mais ils le pensent. Alors ce matin, j'aimerais un peu me défendre, parce qu'habituellement je ne réponds pas. Mais ce matin, j'aimerais me défendre et j'aimerais dire que je ne suis pas provocateur. Mais la Bible me provoque beaucoup lorsque je la lis. Et ce que j'essaye de prêcher, ce sont les vérités telles que de la parole, telles que le Seigneur me les montre au travers de mes lectures. Et le fait que les vérités de la parole nous choquent et viennent choquer certaines de nos certitudes ne devrait pas nous offenser. Au contraire, et plutôt que de rester campé sur nos positions, parce que bien souvent c'est comme ça, n'est-ce pas? Lorsqu'on vient attaquer une position, qu'est-ce qu'on fait? On se replie. C'est la conduite de guerre, n'est-ce pas? Au lieu de rester campé sur nos positions, eh bien il est important que nous puissions vérifier nous-mêmes si nos certitudes sont fondées par une véritable compréhension des Écritures, ou si notre sécurité spirituelle ne repose que sur un empilement de convictions formées au gré des prédications, des lectures et des préjugés que nous portons tous en nous. Justement, on en a touché effectivement jeudi en lisant Jean, et je disais, les prédicateurs dont il faut se méfier le plus, ce sont ceux qu'on aime le plus. Parce que s'en méfier, il ne faut pas les détester, bien entendu, bien au contraire, il faut les aimer. Mais ce sont eux qui sont le plus susceptibles de nous induire en erreur, parce qu'on se dit, celui-là, il est parfait, et donc moi qui suis-je pour seulement essayer de comprendre différemment les choses que lui les comprend. Donc ce matin, vous avez le droit de faire ça avec moi, si vous m'aimez, eh bien, vérifiez d'autant plus ce que je vous dis ce matin. Le problème du christianisme évangélique, c'est qu'il s'éloigne de la parole de Dieu et de la connaissance du Dieu vivant. Et ça n'a rien à voir avec la fin des temps ou l'augmentation de la haine de Dieu dans le monde. C'est de nous qu'il s'agit. De notre façon de lire la Bible, comme des robots, sans compter sur le Saint-Esprit pour qu'il nous enseigne toutes choses, n'est-ce pas? Il y a des prophéties qui parlent de ça. « Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. » Ésaïe 54, 13. « Celui qui, si n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand, » dit l'Éternel, Jérémie 31, 34. « Car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Et dans Jean 6, Jésus dit la même chose, Jean 6, 45. Il est écrit dans les prophètes, « Ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. » N'est-ce pas, ces choses, c'est entre autres un effet des dénominations ou des groupes qui créent en leur sein une sorte de culture religieuse identitaire. C'est-à-dire que la lecture que l'on fait de la Bible, l'interprétation, elle passe par des filtres qu'on a tous, n'est-ce pas? Et ces filtres sont issus des préjugés et des stéréotypes qui sont véhiculés par la famille dénominationnelle ou le groupe auquel nous appartenons. De sorte que, au lieu de s'unir autour de la parole de Dieu, les croyants s'entre-déchirent et se divisent à cause de clichés et de convictions vagues et mal fondées bibliquement. De sorte que lorsqu'on entend tous ces clichés, eh bien, on ne les questionne plus. Et ce matin, j'aimerais vous parler de l'amour de Dieu. Et il y a des clichés sur l'amour de Dieu. Les clichés, c'est quoi ? Un cliché, c'est toujours une erreur. Lorsque vous faites une photographie, on appelle ça un cliché, n'est-ce pas ? Or, vous prenez une photo, c'est comme ça, dans votre viseur, vous faites clic, c'est un cliché, et ce que vous avez photographié est faux. Dans le sens que vous avez photographié peut-être un magnifique paysage, mais que juste à côté, vous avez évité le bidonville ou la décharge publique qui est juste là à côté. Et donc la personne à qui vous allez montrer la photo va se dire « Waouh, c'était magnifique tes vacances, t'étais où ?» Et vous pouvez lui raconter ce que vous voulez. Et lui, il ne sait pas qu'il y a une décharge juste à côté. Donc un cliché, ça ne montre pas la réalité. Ça montre quelque chose de la réalité, mais pas une réalité entière. Donc les clichés sont des phrases toutes faites que l'on répète inlassablement comme une ritournelle, vous savez, ces mélodies que tout d'un coup vous entendez et puis qui ne vous quittent plus. Voilà. Et donc on capte la musique et on n'arrive plus à s'en débarrasser tant ça sonne bien. Et il y a des clichés comme ça sur l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, par exemple, est inconditionnel. Alors là, si je dis que ça, c'est un cliché, vous allez dire « Non, c'est pas vrai, c'est pas un cliché. » Eh bien, si, ça n'est qu'une partie de la réalité concernant l'amour de Dieu. Ou si je vous dis « Dieu aime le pécheur, mais il hait son péché. » C'est un cliché. Parce que c'est vrai et c'est pas vrai en même temps. Donc ce sont des expressions qui sonnent bien, et en les disant, en réalité, on fait entrer Dieu dans notre culture moderne. On rend Dieu sympathique, on le rend tolérant, et on arriverait presque à l'imaginer émotionnellement touché par notre condition de victime du péché. Dieu a des émotions, mais il ne considère pas du tout que nous sommes victimes du péché. Au contraire, il nous considère comme étant coupables de péché. Cependant, et il faut vraiment le préciser, nous savons aussi que Dieu est amour. Ça fait partie de sa nature. L'amour, c'est de Dieu, l'amour que Dieu possède est ce qu'on appelle un attribut. C'est quelque chose qui le constitue dans son essence. Comme la sainteté, par exemple. Dieu est saint. Par contre, la colère n'est pas un attribut de Dieu. Dieu n'est pas colère. Dieu peut se mettre en colère, mais il n'est pas colère. Et la colère, c'est quoi ? C'est une réponse de la sainteté au péché. La colère, c'est ce qui est, c'est ce qui est arrivé lorsque Adam a péché, n'est-ce pas ? La colère de Dieu s'est manifestée. Même si ce n'est pas écrit dans ces termes-là, le résultat, c'est que Adam a dû quitter le jardin dans lequel Dieu l'avait placé. Et la colère de Dieu, elle peut être terrible. Terrible. Nous n'avons pas idée véritablement de ce que peut être la colère de Dieu. Nous avons des textes dans la parole qui nous en parlent. Et Dieu est en colère contre le péché. La colère de Dieu est souvent comparée à un feu dévorant. S'il y a quelque chose qui m'a impressionné quand je suis né de nouveau, c'était cette notion de feu dévorant. Ésaïe 30, 27, voici le nom de l'Éternel vient de loin. Sa colère est ardente. C'est un violent incendie. Ses lèvres sont pleines de fureur et sa langue est comme un feu dévorant. Voilà une description du Dieu d'amour. Alors, j'aimerais que ce matin, on ouvre la parole et que nous réalisions que l'amour de Dieu, ce n'est pas nécessairement quelque chose de facile à comprendre. Parmi les gens qui croient en Dieu, la grande majorité considère que Dieu est un être aimant. Et ce qui fait que quand des chrétiens qui sont bien informés sur l'amour de Dieu veulent parler, veulent partager cet amour, eh bien, ils disent des choses très différentes de ce que l'on comprend de l'amour de Dieu dans la culture de notre siècle, qui a fait sa propre définition de l'amour de Dieu. N'est-ce pas ? On a expurgé, on a sorti de l'amour de Dieu, de cette notion d'amour de Dieu, tout ce qui peut être désagréable, comme par exemple la justice de Dieu, ou la conditionnalité de l'amour de Dieu, c'est-à-dire « je vous aime si vous serez mon peuple si ». N'est-ce pas ? Il y a beaucoup de « si » dans la parole. Et du coup, n'est-ce pas, lorsqu'on parle de l'amour de Dieu au monde, eh bien les gens ne sont même pas émus de ce que Dieu les aime, puisque quelque part, ça fait partie de cette ritournelle « Dieu aime tout le monde ». Dieu vous aime tel que vous êtes. Et pourtant, pour considérer l'amour de Dieu, il faut pouvoir mesurer la colère de Dieu. Je ne peux pas comprendre l'amour de Dieu si je ne sais pas aussi qu'il est en colère. Aujourd'hui, bien souvent, le christianisme en est rendu à « Ok, Dieu vous aime, je suis pécheur, vous êtes pécheur, nous sommes tous pécheurs et privés de la gloire de Dieu, mais on n'est pas pire que les autres, Dieu m'aime, il t'aime, tout va bien, on va s'en sortir. » C'est comme ça que je le comprends, que je l'entends, n'est-ce pas ? Ça va aller, Dieu nous aime. Donc j'aimerais qu'on puisse comprendre un peu plus ce qu'est réellement l'amour de Dieu au travers de 5 manifestations différentes de cet amour. L'amour de Dieu, c'est d'abord quelque chose qui existe et qui fonctionne dans le cadre de la Trinité. C'est là qu'est véritablement présent l'amour, la perfection de l'amour de Dieu. Et ça, on le lit dans le livre de Jean, justement, Jean 3, 35. En fait, Jean exprime à 2 reprises l'amour du Père pour le Fils et une fois l'amour du Fils pour le Père. Donc Jean 3, 35, le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Dans Jean 5, verset 20, vous lisez « Le Père aime le Fils ». Et il lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Et si vous allez plus loin, dans Jean 14, verset 30, ou 31, « Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné. Levez-vous, partons d'ici. » C'est difficile à imaginer, n'est-ce pas, l'amour dans la Trinité. Mais cet amour qui existe au sein de la Trinité est, selon Jean, si on lit le verset chapitre 14, verset 30, « Afin que le monde sache que j'aime le Père. » Selon Jean, l'amour de la Trinité est une information fondamentale pour le monde. Cet amour qui existe entre le Père, le Fils, par le Saint-Esprit, c'est quelque chose qui doit être connu du monde. Parce que cet amour, c'est cet amour qui décide de l'œuvre de la croix. N'est-ce pas ? C'est uni dans ce même amour entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit que c'est décidé que Jésus-Christ descendrait sur terre pour prendre le péché du monde. C'est issu de cet amour que la décision a été prise. Et la personne de Jésus-Christ est une manifestation de l'amour de Dieu. Et le résultat de cette manifestation se lit dans Jean 17, 21, 23. C'est que les élus de Dieu soient parfaitement un dans le Père et dans le Fils pour que le monde croie en Jésus-Christ venant de Dieu pour le salut de l'humanité. Donc l'amour qui existe et qui, j'allais dire, tourne dans la Trinité entre les trois personnes de la Trinité, cet amour a une force qui est une force de vie, une force vitale, qui fait descendre Christ sur la terre, qui provoque la croix et qui donne la rédemption à l'humanité. Et c'est pour ça que Jean dit, n'est-ce pas, afin que le monde sache que j'aime le Père. C'est pas un truc qui s'est fait comme ça dans le coin qu'on a décidé, ce serait une bonne idée que de mourir pour les hommes. C'est quelque chose qui est issu, qui est né de l'amour qui existe au sein même de la Trinité. Et le résultat, c'est que les élus de Dieu sont emmenés, sont captés dans cet amour. Et cette unité qui existe dans la Trinité, que les élus soient participants en Jésus-Christ de cette unité. Deuxièmement, l'amour de Dieu est protecteur, mais pas seulement pour ses enfants, pour toute l'humanité, pour toute la création. Dieu protège sa création. Pourquoi ? Parce que c'est Dieu qui l'a faite. C'est Dieu qui a créé le monde. C'est Dieu qui a créé les animaux. C'est Dieu qui a créé l'homme et la femme. Et Dieu assume sa création. Genèse 1:31, Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela a été très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le sixième jour. J'aurais pu vous dire tous les autres jours où c'était bon. Mais là, c'est très bon. C'est très bon et je vais assumer ce que j'ai fait. J'aime ma création. J'aime mon œuvre. J'aime mes œuvres que sont les hommes et les femmes sur la terre. Dieu ne se désengage pas de sa création. Il l'avait qualifiée de bonne et de très bonne. Et malgré le péché, malgré la rébellion, malgré les insultes permanentes faites à la gloire de Dieu par l'humanité et le christianisme, Dieu continue à assumer ses œuvres faites à la création. Et un effet de l'amour de Dieu, c'est qu'il veille de façon souveraine au bien-être de toute sa création. Même s'il y a des fois beaucoup de pluie et que ça pourrit les cerises. Mais vous savez, les cataclysmes, ce ne sont pas des signes pour les chrétiens. Dieu ne parle pas aux chrétiens au travers des cataclysmes. Dieu ne parle pas à ses enfants au travers des cataclysmes. Dieu parle à ses enfants au travers de la parole de Dieu, au travers des prédications, au travers des frères et des sœurs qui aiment le Seigneur et qui sont inspirés par le Saint-Esprit. C'est comme ça que Dieu parle à ses enfants. Les cataclysmes, c'est fait pour le monde. C'est pour qu'ils se rendent compte de leur erreur et qu'ils se tournent vers Dieu. Et en fait, les cataclysmes, c'est une manifestation de l'amour de Dieu pour le monde. Est-ce qu'on y croit ? Parce que c'est le salut qui est en jeu derrière. C'est que les hommes répondent à son appel. Et Dieu vient choquer pour que les yeux s'ouvrent. Matthieu 5, 45. Afin, donc je disais, l'amour de Dieu, c'est qu'il veille de façon souveraine au bien-être de toute sa création. Et Matthieu 5, 45 nous dit, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. C'est sur la base de cet amour pour sa création que Dieu attend de ses enfants le même engagement vis-à-vis du monde. Le salut est manifesté au monde à chaque fois que les enfants de Dieu se sentent concernés par la création de Dieu. Qu'ils ne la détruisent pas avec des pesticides. Ça, c'est pour Jeannot. Qu'ils respectent la nature. Qu'ils s'occupent de la veuve et de l'orphelin. Qu'ils répondent à la moquerie et aux brimades et aux persécutions par l'amour. C'est l'œuvre d'un créateur aimant. Le Seigneur Jésus décrit le monde, décrit un monde dans lequel Dieu revêt l'herbe des champs d'une gloire supérieure que les hommes ne voient pas. Une gloire supérieure à celle de Salomon, que les hommes ne voient pas peut-être, mais Dieu le voit. Les oiseaux sont reconnaissants à Dieu pour la nourriture qu'ils ont, n'est-ce pas ? Une autre forme de l'amour, c'est l'amour de Dieu qui sauve un monde perdu. Dans Ézéchiel 33, au verset 11, vous lisez, « Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur. L'Éternel, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de vos mauvaises voies. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël ? » Un autre verset que vous connaissez bien, n'est-ce pas ? Jean 3, 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il a donné son Fils. Le don de Dieu. Un jour, je vous ferai une prédication sur le don de Dieu. C'est fabuleux, le don de Dieu. Dieu donne, sans rien attendre en échange. Il donne. Et la même vérité se trouve dans de nombreux passages. Romains 5, 8. « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Aujourd'hui, c'est le temps du salut. Lorsque Christ viendra pour la deuxième fois, ce sera le temps de la colère. Ce sera le temps du jugement et de la colère de Dieu. Mais aujourd'hui, nous vivons le temps de la patience de Dieu. Et c'est aussi une manifestation de son amour. Dieu appelle les pécheurs à se repentir. Sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Qu'est-ce que ça veut dire se repentir ? Se repentir, c'est dénoncer soi-même de façon claire son propre péché, pour s'en démarquer complètement, n'est-ce pas ? Il y a des choses, il faut les nommer, il faut les dire, parce qu'on veut s'en éloigner. Et pour ne plus jamais connaître ce péché. Donc, la repentance, ça indique un changement de mentalité qui incite à se détourner du péché et à se tourner vers Christ, avec foi, avec pleine confiance. Et si vous avez lu, bien évidemment, l'épisode avec les brigands sur la croix, à côté de Jésus, il y a un brigand qui s'est repenti, n'est-ce pas? Et ce brigand, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est désolidarisé de son collègue, de l'autre malfaiteur. N'est-ce pas? Et il lui pose la question, ne crains-tu pas Dieu? Et il reconnaît son péché. On va le lire dans Luc 23. Donc verset 39, l'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras entré dans ton règne. Jésus lui répondit, je te dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui, il est avec Christ dans le paradis. Peut-être il nous regarde, je ne sais pas moi. J'en sais rien, mais bon, quand même. Ne crains-tu pas Dieu? N'est-ce pas? Il prend ses distances avec cet homme, avec l'autre. Il dit, mais tu es fou. T'as pas peur de Dieu? T'as pas peur de ce qui peut t'arriver? T'as pas peur de la puissance de Dieu? Parce que l'autre, qu'est-ce qu'il dit? Ouais, t'es le Christ, t'as qu'à te sauver toi-même et nous sauver nous. N'est-ce pas? Il y a une défiance. Et il dit, pour nous, c'est justice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pour nous, c'est normal. Nous, on est là, c'est pas par accident. C'est pas une injustice. C'est pas une erreur monumentale de jugement. Pour lui, oui. Mais pas pour nous. Pour nous, c'est normal. Et c'est ça, n'est-ce pas, la repentance? C'est d'accepter la condamnation. C'est d'accepter les problèmes qui nous viennent de nos comportements, de nos fautes. C'est d'accepter ça. C'est normal qu'on en souffre. C'est normal qu'on soit dans la difficulté. Combien de gens, n'est-ce pas, se plaignent auprès de Dieu? Ils disent, pourquoi je souffre? Mais cet homme ne dit pas pourquoi je souffre. Il dit, c'est normal que je sois là. Est-ce que nous avons dit à Dieu déjà, c'est normal ce qui m'arrive? C'est normal que je sois dans la misère. C'est normal parce que mes choix ont été mauvais et contre toi tout le temps pendant des années. C'est normal ce qui m'arrive. Je veux pas trouver d'excuses. C'est ça la repentance. C'est ça. N'est-ce pas? Jésus est roi, il est sans péché et il est là. Il confesse l'identité de Jésus. Et il invoque son secours. Souviens-toi de moi. Et la réponse de Jésus, eh ben elle ne se fait pas attendre, n'est-ce pas? Aujourd'hui, tu seras avec moi. Wow. Qu'est-ce qu'il a répondu à l'autre? Qu'est-ce qu'il a répondu à celui qui dit, n'es-tu pas le Christ, sauve-toi toi-même et sauve-nous? Pourtant, il souffrait. Cet homme souffrait aussi, n'est-ce pas? Jésus n'a pas répondu un mot. Il était lui aussi au seuil de l'éternité. Jésus n'a pas répondu un mot. Jésus n'aime pas les pécheurs? C'est ce qu'on dit, n'est-ce pas? Jésus aime les pécheurs. Mais pas là. Il n'y avait pas de repentance. Jésus n'a pas répondu un mot et cet homme est mort avec ses derniers mots contre Dieu à la bouche. Dieu, c'est mon quatrième point, a un amour spécial qu'il réserve aux élus. En fait, Dieu a des préférences dans son amour. Et pourquoi est-ce qu'il y a chez Dieu un amour préférentiel pour son peuple? Pourquoi? J'ai cherché, et la réponse, c'est parce que. Il n'y a pas de réponse, en fait, à cette question. Il n'y a pas de vraie réponse. Deutéronome 7,7, j'ai déjà lu ce matin, ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi. Car vous êtes le moindre de tous les peuples. Dieu a des préférences pour ses élus. 1 Jean 4, 10. Et cet amour consiste non point à ce que nous ayons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Donc qu'il s'agisse d'Israël ou de l'Église, Dieu met son affection sur ses élus, comme il ne la met pas sur les autres. Et c'est un choix délibéré de Dieu. C'est un choix, c'est une discrimination délibérée de la part de Dieu. Et Dieu ne nous donne pas de raison pour lesquelles il agit de cette façon-là. Mais quand certains s'en émeuvent, comme ce fut le cas avec l'apôtre Paul, qui a dû expliquer, n'est-ce pas? Certains ont dit, mais voilà, pourquoi? Alors Paul a répondu quoi? Romains 9, 20. Ô homme, toi, plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase à usage vil? C'est Dieu qui décide. On ne peut pas demander à Dieu des comptes. Nous sommes son œuvre. Nous sommes sa création. Nous avons tendance à l'oublier, n'est-ce pas? Puisque nous sommes créés à l'image de Dieu, donc très puissants dans ce que nous pouvons faire et penser. Très puissant. Et nous avons tendance à oublier que c'est Dieu qui nous a créés. C'est Dieu qui a permis que nous venions au monde. C'est Dieu qui a permis que nous faisions et que nous soyons ce que nous sommes. Mais Dieu ne nous dit pas pourquoi il nous a fait ainsi. L'aspect discriminant de l'amour de Dieu se trouve partout dans la Bible. Par exemple, avec Ésaü et Jacob. J'ai aimé Jacob et j'ai eu de la haine pour Ésaü. Dans le Nouveau Testament, Christ a aimé l'Église, Christ s'est livré. N'est-ce pas? Et Paul a lui aussi été le choix de Dieu. Et Paul, n'est-ce pas, lorsqu'il Je pense que Paul était sans doute celui qui était le plus étonné du choix de Dieu. Paul était celui qui n'a jamais réussi vraiment à comprendre pourquoi Dieu a été aussi bon avec lui. Quand vous lisez Galates 2:20, « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Il a personnalisé à ce point-là, n'est-ce pas, le sacrifice de Christ. Il n'était pas obligé de le rajouter à cette phrase, en fait. Ça ne rajoute pas grand-chose au sens du texte. N'est-ce pas ? Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé. Il aurait pu s'arrêter là. Qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Vous savez, je crois que le salut n'est pas loin lorsqu'on réalise que c'est pour moi que Christ est mort. C'est aussi pour une multitude, mais pour moi. Il y en a besoin, n'est-ce pas, que le Seigneur nous fasse comprendre la personnalisation de son sacrifice, la personnalisation du don qu'il a fait pour moi. Donc, Dieu aime parce qu'il aime. C'est tout. On n'a pas d'autre explication. Est-ce que vous savez que Dieu vous aime ? Non, je ne vous demande pas si on vous a dit que Dieu vous aime. Je ne vous demande pas si vous avez lu que Dieu vous aime. Je vous demande si vous savez que Dieu vous aime. Des fois, j'aimerais poser la question individuellement à chacun, dans un petit coin. Est-ce que tu sais que Dieu t'aime ? Oui, je l'ai lu. C'est pas suffisant, n'est-ce pas ? C'est pas suffisant. Enfin, l'amour de Dieu est aussi un amour conditionnel. C'est un amour qui est pour ceux qui lui obéissent. Et la preuve que les enfants de Dieu aiment Dieu, c'est quoi ? C'est qu'ils gardent ses commandements. Déjà, dans le Lévitique, vous le lisez, n'est-ce pas, Lévitique 26:3, « Si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, je vous enverrai des pluies en leur saison. » La terre donnera ses produits et les arbres des champs donneront leurs fruits. Et alors j'en entends qui disent, oui, mais il y a trop de pluie maintenant. Et dans le Nouveau Testament, Jude demande aux chrétiens de se maintenir dans l'amour de Dieu. Jude 21, verset 21, mettez-vous dans l'amour. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Si Jude fait cette exhortation, c'est qu'il y a possibilité de sortir de l'amour de Dieu, de ne pas rester, de ne pas demeurer dans l'amour de Dieu.
Quel verset ?
Verset 21. Il n'y a qu'un chapitre, donc Jude. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Et dans Jean 15, verset 7, vous lisez, « Si vous demeurez en moi, c'est Jésus qui parle, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. » Des fois, on oublie le début, n'est-ce pas ? Hein ? Ça arrive. « Demandez ce que vous voudrez et ça vous sera accordé. » Si vous demeurez en moi, si vous vous maintenez en moi, et que mes paroles se maintiennent en vous, demandez ce que vous voudrez. et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Si vous ne portez pas de fruits, mon Père ne sera pas glorifié. C'est ça qui est dit. Et vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. N'est-ce pas? Comme, de la même façon que le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Jésus, n'est-ce pas? Donc Jésus est en train de faire descendre la Trinité sur la terre, d'une certaine manière. Comme le Père et moi, nous nous sommes aimés, moi aussi, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vais vous lire jusqu'au verset 17. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres. Pourquoi est-ce qu'il peut donner ce commandement? Pourquoi est-ce qu'il peut le donner? À cause de ce sur quoi j'ai insisté avant. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. L'amour dans la Trinité est une image, est une unité qui doit descendre sur la terre au travers de Jésus-Christ et se manifester dans l'unité entre les enfants de Dieu. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jésus a donné sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, une deuxième fois, n'est-ce pas, ce que vous demanderez en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Mais, n'est-ce pas, cet amour entre les frères est possible uniquement s'il est passé au travers ou s'il descend plutôt de l'amour qui existe aujourd'hui dans la Trinité entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est ça qui doit descendre en nous et nous unir, parce que cet amour a une vocation à unir. Je vais m'arrêter là, j'en aurai encore pour une demi-heure, mais je vais m'arrêter là. Mais simplement, je veux souligner quelque chose. J'ai parlé de cinq aspects de l'amour de Dieu. Ce qu'il faut retenir, c'est que Dieu aime de différentes façons. Et on ne peut pas accentuer une forme de l'amour de Dieu au détriment d'une autre. J'allais dire que parfois, dans des micro-situations, on peut parler de la compassion de Dieu pour nos problèmes et nos situations, certes. Mais on ne peut pas uniquement baser notre évangélisation ou nos conseils dans l'Église sur un aspect de l'amour de Dieu et ignorer l'autre. Donc, ces cinq aspects, il manifeste la façon dont Dieu aime dans les circonstances qui sont les siennes et au moment où il manifeste son amour. Ses façons sont différentes, mais on ne peut pas privilégier une de ces façons, parce que sinon, eh bien, on se trouverait en difficulté, et notamment, n'est-ce pas, certains, par exemple, sont pris dans la culpabilité parce que ils ne lisent pas assez la Bible, parce qu'ils ne prient pas, et ils pensent que Dieu ne les aime pas, parce qu'ils font des efforts. Or, Dieu apprécie la piété, n'est-ce pas? Mais en même temps, il ne juge pas et il ne définit pas un chrétien juste par sa piété. Il le définit aussi par ses actes, ce qu'il fait, par sa relation à Dieu, de la façon dont il aime Dieu. Donc, voilà. Les notes que j'ai sont accessibles. Si vous voulez les compiler, vous pouvez. Mais, voilà. Donc, il y a des façons de présenter l'amour de Dieu qui sont tronquées, qui ne sont pas nécessairement justes. Et l'amour de Dieu, c'est... on ne décrit pas bien l'amour de Dieu si on utilise juste un aspect de l'amour de Dieu. Et vous savez très bien aujourd'hui, l'amour de Dieu, c'est un peu un produit vite fait, bien fait, c'est-à-dire voilà, Dieu vous aime et tout va bien se passer si vous vous confiez en lui. Mais l'amour de Dieu, c'est beaucoup plus que ça. C'est surtout pour nous chrétiens aussi. Et c'est pas parce qu'il pleut aujourd'hui que Dieu ne nous aime pas. Non, mais c'est vraiment un message important, parce qu'on pourrait se croire jugé, n'est-ce pas ? On pourrait croire que Dieu est en train de faire descendre le feu du ciel sous forme d'eau pour me juger moi. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est une erreur. Seigneur, merci pour ton amour et pour toutes les façons dont tu nous aimes. Seigneur, nous voulons être conscients du train de ce monde et de la façon dont aujourd'hui on aimerait te rendre très facilement accessible à tous et à tout le monde en exposant un Dieu un peu limité. Seigneur, tu es un grand Dieu. Certes, tu nous aimes, mais tu nous avertis aussi. Tu avertis tous ceux qui ne t'appartiennent pas. Tu les avertis de ta colère à venir. L'homme qui pêche, c'est celui qui mourra. Seigneur, tu ne distingues pas le péché du pécheur. Et Seigneur, nous voulons nous-mêmes nous placer devant toi afin que tu nous purifies, que tu nous pardonnes, Seigneur, tous nos fautes, tous nos péchés. Et nous voulons aussi, Seigneur, te remettre tous ceux que nous aimons et que nous portons dans notre cœur. Ceux, Seigneur, que nous portons devant le trône de la grâce et pour lesquels nous prions, pour lesquels nous passons du temps, pour leur parler de toi. Seigneur, que tu puisses nous donner la sagesse et que, Seigneur, le portrait par lequel nous te dépeignons puisse être juste selon ta parole. Seigneur, merci pour tous tes dons, merci pour tes bienfaits, merci pour ta providence. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.